vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Regard. Elle veut malgré elle fondre dans son frère.
Je la mène doucement vers le lit et la fait s'allonger. Elle s'allonge doucement, avec calme. Et lui s'allonge à côté d'elle.
L'un à côté de l'autre, sans bouger, en se regardant. Le lit est devenu une barque qui vogue sur une eau bleue et or. Elle va loin, loin de tout. Il reste ainsi un moment, le jour baisse dans la pièce. Frappé à la porte, ça les a fait sursauter. Il demande « Oui ?»«
Monsieur, il est l'heure de dîner. »«
Bien, je descends. » Il faut se lever. Il se penche à sa sœur et lui dit « Tu viens ?» Il lui donne un baiser. Elle lui dit « Tu ne verras plus cette femme ?»«
Non, je te le promets. »
se lèvent tous deux et sortent de la chambre.
Charles-André se demande ce qui lui arrive. Durant le repas et la soirée qu'il passe au salon avec la famille, il ne fait que regarder sa sœur. Il la trouve belle et délicieuse. Dans la nuit, ses rêves mélangent son expérience qu'il a connue avec la femme et le sentiment qu'il a pour sa sœur. En se réveillant, ceci le trouble. N'altère pas ses sentiments pour sa sœur, mais même excite le désir grâce au rêve. Malgré tout, il ne sait que faire et aimerait rester au lit, car il aimerait rester auprès de sa sœur et être en même temps retrouver le plaisir que lui a donné la femme, le souvenir du plaisir et si intense qu'il lui faut oublier la laideur de celle qu'il lui a donnée. Il est vrai qu'à 15 ans, le désir est si fort qu'il ne peut se dominer et que l'on est prêt à beaucoup de folie pour l'assouvir. Heureusement qu'à cet âge, on est plus ou moins timide, ce qui ralentit les élans. Donc Charles-André est troublé et se lève anxieux. Quelle que soit sa décision, elle ne sera pas entièrement satisfaisante. Si ma sœur n'était pas ma sœur, ce serait l'idéal.
Sortant de sa chambre, il décide de rester seul pour réfléchir à tout ça.
Passe la journée seul sur la plage, l'esprit troublé, envie de revoir sa sœur et en même temps il a le désir. Pauline de son côté le cherche, son corps gonfle d'envie de revoir ce grand frère qui est déjà un jeune homme, beau garçon et si gentil. Elle court heureuse pour le revoir. Elle est tellement prise par cet amour qu'elle ne voit pas qu'il est à bout. Enfin, elle le voit assis et contemple la mer sur un rocher au bord de la plage. Elle s'approche. Lui ne la voit pas venir, plein de ses pensées pour elle. Enfin, il la voit. Elle est tout près de lui. Lui sourit, elle baigne dans la lumière, elle lui demande « Que fais-tu là ?» Il lui répond « Rien, je crois que je t'attendais. » « Comment cela ?»« Eh bien, je ne sais pas, j'avais l'impression que tu viendrais. » Il se lève, lui prend la main et marche lentement sur la plage. Elle lui dit « Moi aussi, je t'ai cherché. J'avais envie de te voir. J'étais comme une immense joie qui me menait à toi. » Il lui dit « Et puis hier, je pense à toi sans arrêt. » Elle lui dit « Moi aussi. » Puis, lui demande « Est-ce frère et sœur que de penser constamment l'un à l'autre ?» Il lui répond « Je ne sais pas. sais pas, mais nous ne le dirons à personne. Ils continuent leur marche, main dans la main. Le 19 juillet, les adultes sont anxieux. Ils attendent un événement grave. Constantin de Bonnardin, de son retour de voyage à Paris, a réuni sa famille au salon. C'est l'après-midi. Il reste debout alors que les autres sont assis. Il leur dit « La France vient de déclarer la guerre à la Prusse. Je l'ai appris juste avant de partir. » Sa femme inquiète lui demande « Qu'allons-nous faire ? » ?»« Je ne sais pas. Attendre. Pour le moment, vous restez ici. Vous êtes plus en sécurité qu'à Lyon ou Paris. » On ne sait jamais avec cette hésité de républicains. C'est eux qui ont voulu la guerre. Paris est en pleine ébullition. C'est presque une révolution. Je plains l'empereur. J'irai aux nouvelles à Paris et à Lyon. Quant à vous, je vous demande c'est de rester ici tranquillement. Charles-Antiré est triste et inquiet. Il regarde sa sœur, qui regarde son père. Elle demande à son père, « Tu vas partir à la guerre, papa ?»«
Je ne le pense pas, ma petite chérie. En tout cas, pas pour le moment. »
Jules n'a pas...
En tout cas... Pas pour le moment.
Jules n'a pas envie de quitter Biarritz. Il veut continuer à jouer les Robinson. Déjà, son imagination est en ébullition. Il se voit dans un monde en ruine, seul, avec son ami. Ceci l'attriste et le met en joie. Être seul, sans personne d'autre qu'eux, même la mort de ses parents ne le gênerait pas. Bien au contraire, cela donnerait un côté plus romanesque à la chose. D'ailleurs, les orphelins dans les romans sont ceux à qui il leur arrive le plus d'aventures, parce qu'ils n'ont personne pour les retenir et leur interdire quoi que ce soit. Inconsciemment, ils pensent à tout cela. Après cette triste nouvelle où l'on s'est embrassé, où l'on a embrassé le père, chacun va réfléchir à cet événement. Jules et Gilles ont décidé un conseil de guerre qu'ils font dans leur cabane et prennent la décision de renforcer leur maison et de l'entourer de palissades. Gilles lui dit « Il faudrait pas oublier de faire des provisions. Oui, tu as raison. Maintenant, nous allons faire tout de suite la palissade. Allez, mettons-nous au travail. » Ils vont chercher des planches qu'ils volent à un menuisier qui se trouve en dehors de la ville et Gilles prend des clous à son père. Charles-André est assis sur la plage à côté de sa sœur. Il lui dit « Moi, la guerre, j'en ai rien à faire. » Et lui demande « Qu'allons-nous devenir ? » Tant que la guerre durera, nous n'irons pas à l'école et resterons ici. Mais si elle risque de durer des années, c'est pareil, elle lui dit. Moi, je ne veux pas rester des années ici. Je veux retourner en ville. Il lui dit, des villes, il n'y en aura peut-être plus. Les canons sont si puissants maintenant qu'ils peuvent tout détruire. Elle lui dit, alors que deviendrons-nous? Rien, nous attendrons, à moins qu'ils nous tuent aussi. Mais ne crains rien, nous serons toujours ensemble. Il lui embrasse la joue. Et puis, s'ils viennent, nous partirons tous les deux. Elle lui dit, partons tout de suite alors. Il hausse ses épaules. Pour partir, il faut de l'argent. Elle lui dit, prenons-en à nos parents. Ils sont vieux, ils n'en ont plus besoin. Et puis, je vendrai tous mes bijoux. Il lui dit sans réfléchir, moi aussi j'ai une montre. Elle hausse ses épaules et lui dit, ta montre de première communion, elle ne vaut pas grand-chose. Il sort de sa poche celle de la femme que la femme lui a donnée. Celle-là, oui. Elle lui demande, qui t'a donné cette montre? Il rougit et n'ose pas lui mentir. Une dame. Elle lui demande, la dame de la maison sur la plage? Il lui dit, oui. Pourquoi t'a-t-elle donné cette montre? Parce qu'elle m'aime bien. Apolline fait la grimace. Il lui dit, tu veux pas être jalouse, une vieille? Elle lui dit, non mais, pourquoi t'est-elle attachée comme ça? Parce qu'elle aime bien les jeunes gens. Mais je te promets que c'est fini. D'ailleurs, cette montre, je n'en veux plus. Et il la jette à la mer. Pauline, surprise, lui dit, mais qu'as-tu fait? Elle est chère, cette montre. Et nous avons besoin d'argent. Qu'allons nous faire maintenant? Il lui dit en riant. Ne t'en fais pas, elle en a encore plus. Et m'a dit qu'elle m'en ferait cadeau d'autres. Son mari les fabrique. Et Pauline est furieuse, lui crie. Je te déteste. Je ne veux plus que tu la revoies. Il est surpris. Si tu ne veux pas que je la revoie, comment ferais-je pour qu'elle me donne d'autres montres? Elle lève ses épaules et lui dit. Nous n'avons pas besoin de ces montres. Je ne veux pas que tu restes avec... que tu ailles avec elle. Je veux que tu sois tout le temps avec moi et que tu ne la vois plus. Il lui dit, nous serons séparés si nous n'avons pas d'argent. Il soupire et lui vient une idée. Elle vit pratiquement toujours seule et la maison est isolée. Il est facile d'entrer chez elle et de lui voler quelques montres. Il y en a tellement qu'elle ne s'apercevra même pas. Pauline lui dit, oui, tu as raison. Cela nous permettra de nous venger de cette vieille bique qui a pensé qu'à déboucher les jeunes gens. Il est surpris par le côté mûr de cette pensée qui ne sont pas de son âge. Mais qui t'a appris toutes ces choses? Elle lui dit, en cachette, j'ai lu du Zola. Et je me suis beaucoup de plus de choses que tu ne crois. En réalité, elle sait beaucoup de choses, mais ces choses qu'elle sait, elle les oublie et s'en souvient de temps en temps. Cela ne nuit en aucun cas la fraîcheur de son caractère. Il décide de surveiller les allées et venues de la femme. Chaque après-midi, ils s'assoivent sur un rocher qui plonge vers la maison de la femme. Là, ils suivent les allées et venues des gens de la maison. Apolline lui demande, « Si nous devions partir, nous irions où ?» Charles-André, après avoir réfléchi, lui dit, « Nous prendrons le bateau pour aller en Espagne ou au Portugal. » Apolline lui dit, « J'aimerais mieux le Portugal, c'est plus loin. » Et puis là-bas, nous vivrions dans une maison de pêcheurs. Tu pêcheras et moi j'écrirai une autre histoire pour plus tard. Il lui dit en s'allongeant sur le sable, il nous faudra beaucoup d'argent pour acheter la maison et le bateau pour la pêche. Suivant les allées et venues de la maison, ils se sont aperçus que les domestiques la quittaient à 19h, sûrement pour laisser le champ libre au mamour de madame, et qu'elle sortait pendant 1 heure. Donc, entre 19h et 20h, la maison est libre. Apolline lui demande : comment ferons-nous pour entrer dans la maison ? Nous allons faire le tour de la maison, et peut-être que nous trouverons une fenêtre. Ils vont vers la maison et en font le tour. Les portes sont fermées, les fenêtres aussi, mais pas de volets. Apolline lui dit : nous pourrons rentrer nulle part, à part en cassant une vitre, et cela risque de faire du bruit et de se voir. Jean Landré lui dit : oui, ça paraît impossible. Il faudrait avoir la clé. Elle soupire et lui dit : et comment ? Il s'éloigne de la maison et retourne s'asseoir sur le rocher et lui dit : je vais retourner chez elle et lui voler sa clé. Oh non, tu ne vas pas la revoir, juste pour la clé, pour nous deux. Et comment va-t-on faire pour lui prendre cette clé ? Vas-tu faire pour lui prendre cette clé ? Je sais pas, je verrai. Laisse-moi faire. Ce sera notre bataille à nous. Prendre le trésor qui se trouve dans la maison. Le lendemain après-midi, vers les 19h, Charles André se promène seul vers la maison. La femme sort de chez elle et marche d'un pas calme. Elle est toute dans ses pensées lorsque tout à coup, elle voit ce beau jeune homme. Elle sourit et va vers lui.
« Bonjour, vous voulez me voir ?»
Il lui dit « Oui, je me demandais ce que vous demandez, deveniez. »
C'est gentil, ça. Je vais très bien. Que tu es mignon. Tu prends un thé chez moi ?
Oui.
Ouh, tu as l'air d'être pressé, dis donc. Viens.
Elle le mène chez elle. Avoir fermé la porte, elle remet les clés dans son sac et le sac dans la commode du couloir. Puis elle quitte son chapeau et ses gants, lui sourit, lui enlève sa veste qui est tombée à terre, défait sa cravate, le décoiffe. Elle lui donne un long baiser sur les lèvres, puis il tire les cheveux en arrière.
« Mon chat !»
Et elle lui défait le pantalon. Il tombe sur les chaussures, puis c'est autour du caleçon. Le sexe est raide, elle le regarde avec satisfaction.
« Tu en as sûrement besoin !»
Elle se penche et le suce. De plaisir, Il penche la tête en arrière et ferme les yeux. Ne le fait pas jouir. Elle se redresse et lui dit
« Dans ma chambre, mon poussin. »
Il se penche pour enlever entièrement son pantalon et son caleçon. Dans la chambre, elle se met nue pour s'allonger sur le lit. Il finit de se déshabiller pour aller près d'elle. L'excitation, le plaisir, il en oublie comme la première fois la laideur de la femme. Une fois qu'il est joui, repris ses forces, ils se sont levés. Lui dit « Je vais à la salle de bain. »
Elle sort de la chambre.
Ses esprits lui reviennent. Il décide d'aller prendre la clé en vitesse et sort de la chambre. Prendre le sac qui est dans la commode, sortir la clé qui est dedans,
retourner à la chambre, ouf, elle revient. Va à la salle de bain son tour.
jours plus tard, il l'a quittée et retrouvé sa sœur chez ses parents au salon. Il s'est assis à côté d'elle. Il lui dit, voilà, c'est fait. Elle lui demande, que faisons-nous? Demain, il faut entrer chez elle. Si on attend trop, elle risquerait de changer la serrure. Le lendemain, une fois qu'elles l'ont vu s'éloigner, ils descendent la dune et, avec sa clé, entrent dans la maison silencieuse. Il la met dans la chambre. Là, elle est émue de voir le lit. Elle se dit que c'est là qu'ils ont fait la chose. Il s'approche de la vitrine,
l'ouvre.
Il lui dit, viens. Elle s'approche. Il lui demande, je prends quoi? Elle regarde, elles sont magnifiques. Prends ce que tu veux. Il prend quelques montres qu'il met dans sa poche. Il a chaud. Elle est fascinée par ce qu'ils sont en train de faire et s'imagine qu'il mène une vie aventureuse. Tout à coup, ils ont entendu la porte de la maison qui s'est ouverte. Vite, ils ferment la vitrine. Ils ne bougent pas, paralysés. Ils entendent qu'elle enlève son chapeau, ses gants et met son sac dans la commode. Qu'elle se dirige en direction du salon. Une fois qu'elle a fermé la porte du salon, vite, il prend sa soeur par le bras, sort de la chambre, longe le couloir, met les pieds sur la commode et sort de la maison. Cours, sans regarder en arrière. Ils trouvent dans le hall d'entrée leur mère. Qui leur dit,
allez vite, vous changez, il est l'heure de dîner.
Ils vont chacun dans leur chambre. Jean-André entre dans sa chambre, change sa veste. Sors les montres. Tu mets dans sa table de nuit. Mets une autre veste. Et sors de la chambre.
Durant tout le repas, lui et sa soeur sont inquiets. Pour la soirée, ils se sont assis l'un à côté de l'autre au salon. Elle demande tout bas, qu'allons-nous faire des montres ? Je ne sais pas. Elle lui dit, « Faut les cacher hors la maison, car on ne sait jamais si la police vient. Tu as raison, demain matin, j'irai les cacher. » Le lendemain matin, il creuse un trou au pied d'un arbre, au-dessus d'une falaise. Loin des regards indiscrets, il a mis les montres dans une boîte à gâteaux en métal, puis est allé retrouver sa sœur. Voilà, tu n'as plus rien à craindre. Jules et Jim ont fini leur palissade et commencent à prendre à la cuisine des boîtes de conserve. Cette guerre, qui semble pour eux la fin et le début d'une nouvelle vie, les excite. Ils parlent sans arrêt de ce qu'ils feront et ne feront plus, assis en tailleur devant la cabane. Jules dit, plus l'école, les vacances toujours. Gilles lui dit, pour aller où nous voudrons. Oui, où nous voudrons. Gilles lui dit, ce qu'il faut maintenant, c'est creuser un puits. Car avec la guerre, l'on risque de manquer d'eau. Jules lui dit, nous allons creuser des tas de trous pour chercher de l'eau. Il doit y avoir des sources qui doivent se jeter à la mer. Je lui réponds, pour trouver de l'eau, j'ai vu dans un almanach qu'il fallait une branche d'arbre et lorsqu'elle bouge, c'est qu'il y a de l'eau. Je lui demande, pourquoi elle bouge? Parce qu'elle est attirée par l'eau. Il décide de chercher une source souterraine. Gilles a pris une branche d'arbre qu'il tient des deux mains comme il l'a vu sur l'almanach. Jules a une pelle. Ils font le tour de la cabane. Lorsqu'ils croient que la branche bouge, ils creusent. Malheureusement, ils ne trouvent rien. Puis, ils vont un peu plus loin. Et en après-midi, tiens, la terre est fraîche ici. C'est au pied d'un arbre. Il creuse. Et oh, une boîte. Jules s'arrête de creuser et se penche pour la prendre. Il ouvre et voit des montres. Je lui dis, c'est un trésor, prenons-le. Prenons-le à la cabane, il est à nous. Je lui demande, à qui peut-il appartenir? Ce sont peut-être des pirates, ils ont dû l'enterrer ici. Ils amènent le trésor à la cabane et décident de l'enterrer dans le sol de la cabane. Gilles dit, comme ça personne ne pourra nous le prendre, ce sera notre trésor de guerre. Après-midi, on a sonné à la villa des Beaumardin. Un domestique va ouvrir. Ce sont deux gendarmes, un petit et un grand à moustache. Désirions voir monsieur de Beaumardin. C'est pourquoi, monsieur? Des questions à lui poser. Entrez, messieurs.
Et il les mène au salon. Entrez. Ils entrent. Puis le domestique va au bureau de son maître. Entrez. Monsieur, le gendarme désire vous parler.
Ils sont où?
Au salon, monsieur.
Bien,
j'y vais. Il se lève pour sortir du bureau et aller au salon. Il pense que c'est à cause de la guerre qu'on le veut réquisitionner la maison, quelque chose comme ça. Il entre au salon et trouve les deux gendarmes debout au milieu de la pièce.
Il se dit, on va me demander quelque chose. C'est normal, je suis un notable. C'est la guerre. Messieurs, vous désirez me parler, me voir? Oui, monsieur, dit un des gendarmes, je vous écoute. Voilà, monsieur, c'est assez délicat. Enfin, madame Voilà, qui habite la maison sur la plage un peu plus loin, a porté plainte. On lui a volé des montres d'un très grand prix. Ce sont des objets de collection qui appartenaient à son mari. Et cette dame pense que c'est un de vos enfants qui aurait fait le larcin. Surpris, en colère, Constantin dit, elle est folle, cette femme. C'est ridicule, cette histoire. Oser calomnier un membre de ma famille, je vais lui faire un procès. Et comment? C'est elle que c'est un des membres de ma famille.
Elle le sait, parce que la seule personne qui a été capable de lui voler la clé de la maison... Comment ? Il paraît qu'avant le vol, votre fils était chez elle. Le père est surpris et hausse ses épaules. Chez elle ? Et que faisait-il chez elle ? Le gendarme tout saute. Cette dame adore inviter chez elle des jeunes gens prendre le chocolat. Tout Biarritz le sait et nous fermons les yeux, car ce sont surtout les fils de bonne famille. Et puis, il faut bien que jeunesse s'instruise. Et il vaut mieux que ce soit avec une dame respectable. Constantin est ahuri et dit « Mon aîné n'a que 15 ans, votre dame doit se tromper. » Le gendarme lui dit « Il vaudrait mieux c'est interroger votre fils. » Le père surpris dit « Bien, soit. » Constantin appuie sur la sonnette murale pour faire venir un domestique. On frappe à la porte. « Entrez !» C'est la bonne. Dites à Charles d'entrer, de venir ici. Elle ressort. Constantin dit au gendarme, « Cette histoire est absurde. Mon fils n'a que 15 ans. » On frappe à la porte. « Entrez !» Est entré Charles-André. Lorsqu'il voit les gendarmes, il rougit. Son père lui dit « Approche !»
Il s'avance vers lui.
Son père lui demande « Est-ce que tu te connais une dénommée Madame Voilin ?» Charles-André comprend. « Réponds !»
« Je l'ai rencontrée une ou deux fois. »
« Es-tu allé chez elle ?»
C'est-à-dire que... Oui.
Et pourquoi ?
Elle m'a offert un chocolat.
Et c'est tout ?
Oui.
Tu en es bien sûr ?
Oui.
Le gendarme intervient et dit « Monsieur, vous permettez, il s'agit surtout du vol. »
Le père soupire et dit
« Nous reparlerons de tout ça plus tard. Mais je n'ai pas fini avec toi. » Cette dame dit que tu aurais pris des montres.
Le gendarme intervient.
Que vous seriez entré chez elle lorsqu'elle était absente et que vous l'auriez pris des montres. Est-ce vrai, jeune homme ?
Jean-André baisse la tête. Son père lui crie.
Est-ce vrai ?
Il ne répond pas. Son père lui donne une gifle.
Alors, c'est vrai ? Dis donc, petit saligo !
Il le secoue, en le prenant par la chemise.
« Dis-moi, où sont les montres ?»
Charles-André tremble.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.